Allô, allô, ici Ciné Herri.
En 1964, sort sur les écrans Le Train, une œuvre en noir et blanc du cinéaste américain John Frankenheimer et du réalisateur français Bernard Farrell, accompagné d'une musique de Maurice Jarre. Le comédien américain Burt Lancaster y tient le rôle principal, celui de Paul Labiche, un chef de garde résistant. Mentionnons également le britannique et très shakespearien Paul Scofield, qui interprète le colonel allemand Franz von Waldheim. Mais la distribution comprend aussi nombre d'artistes français, notamment Paul Boniface, Suzanne Flon, Jacques Marin, Jeanne Moreau, Albert Rémy, Michel Simon. Enfin, indiquons la présence fugitive d'Howard Vernon, l'acteur suisse qui interprétait en 1949 l'officier allemand dans l'œuvre de Jean-Pierre Melville, Le silence de la mer. Le 2 août 1944, Paris se trouve à son 1511e jour d'occupation, alors que les Allemands en déroute s'apprêtent à évacuer la capitale. Un officier, le colonel Franz von Waldheim, est chargé de convoyer jusqu'à Berlin des centaines d'œuvres d'art appartenant à la Galerie nationale du jeu de paume. Des œuvres que les nazis ont pourtant désignées comme représentant ce qu'ils ont appelé l'art dégénéré. Des œuvres qu'ils devraient donc détester, reconnaît-il, mais qu'il aime passionnément et pour lesquelles il se sent prêt à tout. Dans l'une des premières scènes du film, Mademoiselle Villard, remarquablement interprétée par Suzanne Flon, révèle à des résistants que 64 Picasso, 29 toiles de Braque, des Degas, des Matisse, des Renoir vont être acheminées en Allemagne par train dans les jours qui suivent. Elle leur déclare alors « Ces toiles appartiennent à la France ». Faisant référence au colonel allemand, elle ajoute « Il a pris le meilleur de notre patrimoine national ». Ce faisant, elle tente de convaincre ses interlocuteurs d'intervenir. Elle suggère « Je pensais que vous pourriez arrêter le train ». En effet, la ville de Paris devrait être bientôt libérée, car les Alliés arriveront avant une semaine, voire moins. C'est la raison pour laquelle le colonel allemand entend faire partir le train avant cette date butoir. Convaincu de leur valeur inestimable, Londres a d'ailleurs donné carte blanche au réseau des résistants français pour sauver ses toiles et éviter qu'elles ne partent en Allemagne. Mais le prix à payer pourrait se solder par de nombreuses pertes humaines, car l'opération s'avère très délicate, puisqu'il ne s'agit pas de faire purement et simplement exploser le convoi, tout au contraire. Comme prévient Mademoiselle Villard, il ne faut pas endommager ces toiles, elles sont uniques. Évidemment, ils n'ont rien à perdre, s'exclame amer et désabusé le résistant et chef de garde Labiche. Ce matin, notre groupe comptait 4 personnes. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Et au début, nous étions 18. Ces hommes aussi étaient uniques. On peut sacrifier des vies pour certaines choses, pas des toiles, lui rétorque-t-il par conséquent. Mais elles font partie de la France. Les Allemands veulent nous les enlever. Ils ont pris nos terres, notre nourriture. Ils vivent dans nos maisons. Maintenant, ils veulent notre art. Cette beauté, cette vision de la vie inspirée de la France, une vision unique. Ces toiles sont entre nos mains, nous en sommes responsables. Vous ne le comprenez pas? C'est l'image que nous offrons au monde. En appui de ce vibrant plaidoyer, un cheminot déclare pour sa part: c'est la gloire de la France. Malgré le refus de Labiche et les nombreuses réticences exprimées par certains devant la difficulté extrême et le danger de l'opération, le train sera finalement dérouté. Le sabotage prend en l'occurrence une forme particulièrement originale et insolite. En effet, tout au long du film, alors que l'action progresse et que l'on voit le train rouler et approcher apparemment de sa destination finale, le spectateur est pris à témoin. Il se trouve en quelque sorte mis dans la confidence du sabotage, à savoir le maquillage systématique de toutes les plaques de gare concernées par l'itinéraire établi par la résistance. Au fil du périple, les noms de gare et les panneaux indicateurs sont donc changés afin d'induire les Allemands en erreur, de les leurrer pour leur donner l'illusion que le convoi se rapproche de l'Allemagne, alors qu'en fait, il ne cesse de s'en éloigner. La station de Pont-à-Mousson est ainsi rebaptisée Rémilly, puis Commercy devient Saint-Avold, avant que Vitry-le-François ne soit rebaptisé Zweibrücken. Tout se passe comme s'il s'agissait d'un jeu de piste, auquel participeraient à leur insu des joueurs condamnés d'avance à perdre la partie et à se perdre car le jeu a été d'emblée biaisé. Le train cheminera donc de faux aiguillage en faux aiguillage. Il divaguera au sens propre du terme, en pleine dérédiction. Il va errer tel un train fou et sans repère, car il convient de sauver le patrimoine national, précise Labiche, finalement convaincu du bien fondé de l'opération. Lorsque la supercherie est finalement découverte par les Allemands, ils exécutent plusieurs cheminots résistants et fusillent des otages en représailles. Mais les ordres de Londres restent inchangés et sont formels. Les œuvres d'art doivent être épargnées coûte que coûte. Précisons que le personnage de la conservatrice du musée, Mademoiselle Villard, s'inspire du rôle que joua Rose Vallant pendant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, cette historienne de l'art fut une résistante de tout premier plan qui permit le sauvetage et la récupération de près de 45 000 œuvres d'art volées par les nazis. Lorsque la guerre éclate, elle exerce au musée du Jeu de Paume. Pendant les années d'occupation, elle assiste au pillage systématique des œuvres d'art des musées et des collections privées, principalement celles appartenant à des juifs déportés ou ayant fui. Durant cette période, le Jeu de Paume est fréquemment visité par de hauts dignitaires nazis, notamment Hermann Göring. On sait combien ce proche d'Hitler a cherché à accaparer nombre d'œuvres d'art à des fins personnelles. Rose Vallant est d'ailleurs présente lorsqu'il vient lui-même sélectionner certains tableaux volés pour enrichir sa propre collection. La conservatrice est d'autant plus facilement témoin de cette politique de prédation que les Allemands utilisent le musée du Jeu de Paume comme dépôt central et centre de triage des œuvres, avant de les répartir finalement vers différentes destinations en Allemagne. Or, pendant qu'il se livre à ses exactions, Rose Vallant dresse avec méticulosité un inventaire précis des œuvres qui transitent dans ce haut lieu de culture. Elle s'efforce de connaître leur destination, les noms des personnes responsables des transferts, ainsi que le numéro des convois et des transporteurs. Puis, en 1944, elle transmet ces précieuses informations aux Alliés, leur demandant d'éviter le bombardement des sites de stockage et des convois. Mais revenons au train et à l'une des dernières scènes du film. Bien que tous ses compagnons soient morts dans les combats ou aient été fusillés, Labiche réussit à faire dérailler le train. Autant dire qu'il a atteint l'objectif que les Alliés lui avaient assigné. La partie est désormais gagnée, car les tableaux ne parviendront jamais en Allemagne. Armée vaincue, l'armée allemande s'avère en complète déroute. Elle évacue la France à marche forcée, sans plus se soucier d'autre enjeu que celui de sa survie. Pourtant, le colonel von Waldheim fait exception. Il ne reconnaît pas avoir perdu la guerre, ni a fortiori les tableaux. Pour ne pas s'en séparer, il est prêt à commettre un crime de guerre. S'il le faut, il est disposé à mourir auprès de ses œuvres, précipitamment abandonnées sur les bas-côtés de la voie par les soldats. « Ce sont quelques-unes des plus belles œuvres du monde », lance-t-il à Labiche qui reste muet et impavide tout au long de leur dernière rencontre. Sarcastique, Waldheim l'accable de son mépris de classe et de sa morgue en lui disant « Une toile a autant de valeur pour vous qu'un collier de perles pour un singe. Vous m'avez arrêté sans savoir pourquoi vous le faisiez. Vous n'êtes rien, la biche, un tas de chair. Les toiles sont à moi. Elles le seront toujours. La beauté appartient à qui est en mesure de l'apprécier. Elles reviennent à un homme comme moi. » À cet instant précis, vous seriez incapable de me dire ce qui vous a poussé à agir, pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Cette ultime face-à-face appelle plusieurs niveaux d'analyse. D'emblée, on voit bien sûr dans cette scène un Allemand vaincu devant un Français vainqueur, le bien triomphant du mal, le bon du méchant, le bon droit l'emportant sur la force brute, la morale et la justice sur la prédation. On peut noter ensuite que par-delà le conflit entre États et entre peuples, cette scène met également l'accent sur un antagonisme de classe, un conflit entre deux classes sociales, incarnées respectivement par un amateur d'art très cultivé et élitiste et un cheminot fruste qui ignore tout de l'art et des toiles qu'il vient de préserver au péril de sa vie. Mais par-delà le sort emblématique de ces deux hommes, ce film nous invite à mener une réflexion plus approfondie sur les rapports existants entre la notion de civilisation et celle de barbarie. Rappelons que pour les Grecs, tels Homère ou Hérodote, le terme de barbare désignait celui qui parlait une autre langue, exerçait un culte religieux et exprimait un mode de vie différent, inconnu d'eux et qu'ils ne comprenaient pas. En l'occurrence, les Grecs définissaient ainsi les habitants de l'Asie mineure et avant tout les Perses. À l'origine, cette qualification ne revêtait toutefois aucun caractère péjoratif. Elle pouvait même parfois impliquer une certaine forme d'idéalisation. À partir du IVe siècle avant notre ère, on commença cependant à associer aux termes de barbarie et de barbare des éléments dépréciatifs, comme ceux de sauvagerie, absence de culture, ignorance, cruauté, inhumanité, une acception qui prévaut aujourd'hui encore. S'agissant de l'Allemagne, la question s'avère particulièrement complexe et éminemment paradoxale. En effet, comment ce pays a-t-il pu en venir à commettre des crimes d'une ampleur aussi phénoménale, des crimes de guerre aux formes les plus extrêmes, des crimes contre l'humanité, un génocide planifié et industrialisé, ayant abouti à l'extermination de 6 millions de Juifs? Comment une telle barbarie, historiquement inédite, a-t-elle pu être mise en œuvre par un peuple dit de haute culture? Rappelons brièvement que dans son ouvrage « Über den Prozess der Zivilisation », Elias a établi la sociogenèse de l'État qui se forma du XIe au XVIIe siècle, dans la partie occidentale de l'Europe. Le sociologue allemand a mis à cet égard en exergue l'existence de ce qu'il nomma un processus civilisationnel, à savoir une réduction majeure de la violence et de l'animalité des hommes au profit de la construction d'un État devenu le seul et unique détenteur légitime du monopole de la violence physique. À ce propos, plusieurs analystes ont souvent évoqué la barbarie nazie pour contredire ipso facto cette approche éliassienne. Sur la fin de sa vie, Elias a donc souhaité aborder de fond cette question capitale en se livrant à ce qu'il appela la biographie d'une société étatique. En effet, sa théorie pouvait-elle tenir devant l'expérience historique du régime nazi? En fait, Norbert Elias a bien montré que, malgré son déchaînement de violence paroxystique, le nazisme témoignait avant tout de la faiblesse de l'État allemand, de sa fragilité, et de l'incomplétude de son monopole de la violence physique légitime. Autrement dit, d'une incomplétude du processus civilisationnel et non de son accomplissement. Dès lors, on doit également appréhender dans cette perspective le face-à-face qui oppose le français Labiche à l'allemand Waldheim. Cela permet alors de découvrir qu'il revêt un caractère éminemment paradigmatique. En effet, comment comprendre que la sauvagerie la plus extrême puisse cohabiter avec une grande culture? Comment dépasser cette apparente contradiction? À cette interrogation, le film de Frankenheimer répond qu'être cultivé n'implique pas nécessairement d'être civilisé. C'est pourquoi, par-delà ces deux personnages, il faut voir aussi l'incarnation et la confrontation de deux modèles de développement étatique. Celui d'un État allemand faible et insuffisamment travaillé par le processus civilisationnel face à celui de l'État français, véritable parangon de la thèse éliassienne.